à tous et à toutes. Au micro, Paul Ouzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de l'autre magazine, Chronique pour la paix. Chers auditeurs, c'est la rentrée, la vie reprend son rythme, les activités politiques repartent avec la reprise des travaux parlementaires. C'est vrai aussi en Israël, où les députés de la Knesset vont se retrouver. À leur ordre du jour, il y a l'adoption du projet de réforme de la justice, qu'une majorité de citoyens du pays considèrent comme étant au mieux un changement de régime, au pire un coup d'État. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils manifestent par dizaines de milliers contre lui depuis 8 mois chaque semaine dans la plupart des villes d'Israël. Certes, le projet inquiète. Mais ce malaise exprime un refus plus général du gouvernement mené par Netanyahou et les idées, les valeurs que ses ministres véhiculent. Donc, il y a de fortes tensions politiques et sécuritaires à l'intérieur du pays, en Judée et Samarie aussi, et sur la frontière nord avec le Hezbollah en embuscade. Dans ces conditions, quels pourraient être les scénarios de la rentrée ? Reprise des manifestations de masse ? Recherche d'un consensus national ? Éclatement de la coalition gouvernementale ? Accélération de l'intifada dans les territoires palestiniens ? Nous allons le demander à une personnalité que beaucoup d'entre vous connaissent, Elie Barnavi. Elie Barnavi a été ambassadeur d'Israël en France. Universitaire, il a dirigé le Centre d'études internationales à Tel Aviv. Historien et écrivain, il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont une histoire moderne d'Israël et une histoire universelle des Juifs remarquable. Elie Barnavi est directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles. Elie, vous m'entendez ?
Très bien.
Très bien. Alors, Elie, la première question, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la rentrée parlementaire à la Knesset vous fait peur ? Pensez-vous qu'on se dirige vers une augmentation de la mobilisation et de la colère des citoyens israéliens contre la réforme de la justice qui doit être adoptée dans les jours qui viennent ?
Alors, laissez-moi commencer par une phrase que vous avez prononcée dans votre introduction.
Oui.
Vous rappeliez que en France, comme d'ailleurs partout en Europe, c'est la rentrée. C'est un terme bizarre ici, parce qu'il n'y a pas de rentrée. On ne s'est jamais sorti.
On n'est jamais sorti.
On n'est jamais sorti.
Même d'Égypte.
D'Égypte. L'agitation politique, l'affrontement, les manifestations quotidiennes, tout cela fait qu'il n'y a jamais eu de très estival, si vous voulez, la saison des... ce qu'on appelle, on appelle cela ici la saison des concombres, c'est-à-dire cette période de trêve où pas grand-chose se passe, mais cela n'existe pas ici.
D'accord.
Je suis rentré quelques jours de vacances en Europe et on a à peine posé nos valises qu'on est allé rejoindre la manifestation du samedi soir. On pensait qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde à cause précisément des vacances et tout ça. Il y avait quand même des dizaines de milliers de personnes. Alors, on va continuer, c'est-à-dire là, vous me posez la question de ce qui va se passer, évidemment, je n'en sais rien. C'est que nous sommes au milieu d'une énorme crise là, politique, morale, institutionnelle, constitutionnelle, la plus grave que et que cela ne va pas s'arrêter. C'est qu'on va être toujours ballotté entre la volonté du gouvernement de poursuivre son coup d'état judiciaire, oui. Le rejet par l'essentiel de la population, vous l'avez dit à juste titre. Nous savons aujourd'hui, tous les sondages le prouvent, que moins de 20% de la population est favorable à ce qu'ils appellent la réforme judiciaire. Et donc, l'affrontement ne fera que s'approfondir, s'aiguiser. Et des moments très pénibles s'annoncent. À l'occasion de plusieurs séances, de plusieurs moments judiciaires dans le courant de ce mois de février. Alors, je voudrais mettre l'accent sur un projet de loi qui me paraît, dont peu de gens parlent, mais qui me paraît très significatif, C'est le projet de loi qui graverait dans le marbre de la loi l'exemption des ultra-orthodoxes du service militaire. Et là, ça va être la révolution. Là, alors que la situation ne changera pas beaucoup, elle est déjà en place depuis des décennies. Le fait de légiférer, de marquer cela dans le livre des lois,
De la loi, oui.
va faire qu'il va y avoir une véritable révolution. Et j'attends un million de personnes dans les rues. Et donc, vous disiez que l'une des possibilités était la chute de ce gouvernement. Et je pense que oui, il y a effectivement une possibilité que cette coalition tombe.
Tombe. Alors, Elie Barnaby, vous personnellement, quel est votre jugement sur cette réforme? Est-ce qu'elle est juste une modification du fonctionnement de la justice, un changement de régime ou un coup d'État? Parce qu'on se demande comment une réforme de la justice a pu mener tellement de citoyens, c'est énorme en fait, on est arrivé jusqu'à 600 000 personnes dans la rue là, quand il y a eu l'affaire Gallant. Comment c'est possible qu'il y ait eu une telle prise de conscience des Israéliens qu'on disait, non pas éloigné de la politique, c'est un peuple politique, le peuple d'Israël, mais disons un peu boy scout, plus consensuel. Et là, on les a vus descendre dans la rue et vraiment se mobiliser.
Alors, excellente question. C'est le dernier comptage ici a été que quelque 7 millions d'Israéliens ont participé aux manifestations depuis 8 mois. 7 millions, vous entendez bien?
Oui, j'ai vu ça. 7 millions, 7 millions en tout.
Pour
Ouais.
une
Et
population,
il faut rappeler qu'il y a 9 millions d'habitants en Israël.
voilà. Et donc, c'est vraiment sans précédent. Sans précédent ici, sans précédent ailleurs. Alors, pourquoi? Parce que les gens, même sans ceux qui ne sont pas au fait des moindres nuances des différents projets que l'on englobe sous le nom de réforme judiciaire, ils ont senti à eux-mêmes, hein, au plus profond d'eux-mêmes, que quelque chose de grave se préparait, c'est-à-dire un changement de régime. Et que là, c'est que cette soi-disant réforme annoncée, ce n'est pas une modification des relations du pouvoir, mais ça demande quelques mots.
Alors, alors.
En France, vous avez l'habitude de nombreux contre-pouvoirs. Vous avez une constitution, vous avez un système bicaméral, vous avez une cour constitutionnelle.
Absolument, oui.
Il y a tout un ensemble de règles, pas seulement en France d'ailleurs, dans l'ensemble du monde, qui assure l'équilibre des pouvoirs. En Israël, on n'a que deux, jusqu'à maintenant, que deux pouvoirs. On n'a que deux branches. Le Parlement, puisque tout cela n'en fait qu'un, étant donné que la coalition a la haute main complète, totale du Parlement, et le judiciaire. Il n'y a que ça.
Oui,
C'est-à-dire que
c'est très simple.
le seul obstacle à l'arbitraire du pouvoir, et le système judiciaire, et notamment la Haute Cour de justice. Et ce n'est pas pour rien qu'on s'attaque à cela. C'est que ce que l'on veut, c'est casser le dernier obstacle devant une sur la route de la transformation du pays à ce qu'on appelle aujourd'hui une monarchie illibérale, et que moi je préfère appeler une autocratie élective, électorale, comme en Turquie par exemple, ou en Hongrie.
Avec Erdogan.
Sauf que, en Hongrie et en Pologne, il y a quand même l'Europe. C'est-à-dire que ces pays sont quand même enserrés dans un système de règles qui n'est pas, mais qui sont quand même obligés de respecter peu ou prou. Et qu'en plus, la Hongrie et la Pologne n'ont pas deux problèmes que nous avons et qui changent tout. C'est le fondamentalisme religieux et l'occupation de territoires. C'est-à-dire que nous. Quand on nous dit qu'Israël sera la Hongrie, et ce ne sera pas l'Hongrie, ce sera bien pire, ce sera la Hongrie plus.
Plus Erdogan.
Alors vous voyez un peu le tableau, et ça les gens l'ont senti, et du coup, on n'assiste plus à un affrontement classique droite-gauche, hein, c'est que le gouvernement essaie de nous faire croire, c'est un affrontement entre des gens qui craignent pour la démocratie de ce pays, et ceux qui s'en accommoderaient très bien. On voit dans les manifestations des hommes et des femmes de droite, des hommes portant kippa. On est on est bien au-delà du clivage classique gauche-droite auquel on avait l'habitude à l'Israël.
Effectivement, Elie Barnabi. Alors, justement, vous parlez de cette situation extrêmement extraordinaire, dans le sens où c'est pas, ça sort de tout ce qu'on a connu. Mais il y a aussi quelque chose, il y a un tabou qui est en train de tomber. Et là, je m'adresse, je crois que vous avez été officier de réserve, hein, si je ne me trompe pas, vous avez été officier à Tsahal. Que pensez-vous du mouvement du refus des réservistes de Tsahal, notamment les pilotes de l'air, qui refusent d'effectuer leur période militaire si la réforme était adoptée? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant
Alors,
que citoyen, en tant qu'officier?
ce n'est pas qu'ils refusent d'effectuer leur service, c'est-à-dire ce sont des, on parle pour l'instant, on parle d'un phénomène qui touche les volontaires. Il faut savoir que les corps d'élite, notamment les pilotes, mais certaines branches des renseignements, des commandos, reposent lourdement sur des réservistes simples, mais sur des réservistes volontaires. C'est-à-dire que on les appelle et ils viennent, mais ils viennent sur une base volontaire. C'est de
Voilà.
cela qu'on parle.
Donc,
Seulement,
pour
ces
la réserve.
volontaires-là, voilà, ces volontaires-là jouent un rôle extrêmement important. C'est-à-dire que sans eux, c'est tous ces services, toutes ces branches, et qui font la puissance de Tsahal, ça tourne mal. Et là, c'est un phénomène que nous n'avons jamais connu, et qui est extrêmement inquiétant pour l'armée. Alors pourquoi ils font cela? Et ils s'expriment, n'est-ce pas? Ils le disent. Ils disent, nous avons, en tant que militaires, que citoyens en uniforme, nous avons un contrat avec ce pays. Et ce contrat dit que nous, citoyens libres d'un pays libre, nous servons, nous mettons en péril notre vie, hein, de manière volontaire, parce que ce contrat nous dit que c'est un contrat entre des hommes libres, des gens qui assurent cette liberté. Dès lors que ce contrat est rompu, nous ne sommes plus liés à cet engagement. C'est extraordinaire. Là encore, il n'y a pas beaucoup de théorie, si vous voulez. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui est très profond. Des gens qui sentent qu'ils sont à la veille de perdre le pays tel qu'eux-mêmes, leur père, leur grand-père l'avaient construit, et qui avaient, la démocratie syrienne n'a jamais été parfaite, mais quelle démocratie l'est, mais qui enfin parvenait, tant bien que mal, à concilier ces deux impératifs de la société syrienne. Un État juif et démocratique.
Démocratique.
Ça ne marche pas, c'est un oxymore. Dans la pratique dans la vie des gens, ça a fonctionné, tant bien que mal. Nous avons eu effectivement un pays, nous avons toujours un pays dont la démocratie est respectée, juif. Cet équilibre-là est au détriment de la démocratie et en faveur d'une définition du judaïsme, celle de ces hommes et de ces femmes, et qui est un judaïsme exclusif, tyrannique, fanatique, et de ses amis, ce n'est pas le cas, nous ne voulons pas.
Alors, en fait, ça veut dire que ces volontaires n'ont plus confiance, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à remettre leur vie, parce que dans certaines circonstances, mais qu'aujourd'hui, ils n'ont plus confiance et ils veulent plus y aller.
Exactement. Ils n'ont pas confiance. Ils disent, nous sommes évidemment prêts à revêtir l'uniforme, nous sommes toujours prêts à servir, mais nous voulons servir un gouvernement qui reflète la volonté de ce peuple
D'accord.
et qui reflète les valeurs fondamentales de cet État, qui sont les valeurs du judaïsme et de la démocratie, entendues comme un ensemble. Et si on ne respecte pas cela, ça ne nous concerne pas. Vous ferez cela sans nous. Que ceux qui représentent ce judaïsme-là aillent défendre le pays, nous verrons ce qu'ils en feront, puisqu'il s'agit des gens qui envoient les autres se battre, mais eux, pour la plupart, ne se battent pas,
Ouais.
ni eux, ni leurs enfants.
Il paraît que la moitié, il paraît, enfin, je crois qu'il y a 40% ou 45% des membres de la Knesset qui n'ont pas fait l'armée, quelque chose comme ça.
Exactement. Vous vous rendez compte?
Ça s'est
Et
jamais arrivé, ça.
ce sont ceux-là
Ouais, qui sont les
dont
plus militaristes.
les leçons de patriotisme.
Ouais. Alors, écoutez, là, j'ai une impression, Élie Barnaby, que je voulais partager avec vous. Vous me dites si j'ai tort. J'ai l'impression d'assister à un dysfonctionnement généralisé des institutions d'Israël. L'armée et la police, la diplomatie et la high-tech, l'éducation et la santé, l'économie et les finances. Et puis alors même à Yad Vashem, là, je vois qu'il y a un bras de fer là en ce moment sur le mémorial israélien de la Shoah. Enfin, tout est en dessus-dessous. Comment vous expliquez cette situation? Comment cette traînée de poudre touche tout le pays, quoi, profondément?
Arrivé au pouvoir une coalition d'ultranationalistes, de messianiques, de fondamentalistes religieux, avec la rage au cœur et la volonté de bouleverser le profit, tous les équilibres de ce pays. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est que, évidemment, le tableau que vous brossez est juste, mais il n'est qu'une partie de la vérité.
Ah.
Dans ses profondeurs, la société civile israélienne tient bon. L'économie, pour l'instant, tient bon. Il y a des faiblesses, les chacun décroche, enfin, nous savons tout cela. Mais dans l'ensemble,
Ça
ce qu'ils
marche.
ont réussi à faire en 8 mois, c'est quand même remarquable. Ils ont pris un pays en état de marche, avec un secteur de haute technologie remarquable et faisait l'admiration de l'étranger. Ils sont en train de saper volontairement, avec beaucoup de talent, il faut le dire, toutes les assises de ce pays, de cette société. Mais 8 mois, ce n'est pas assez pour tout détruire. Et il y a encore des forces vives dans ce pays, et on le voit dans les manifestations. Et c'est un énorme bras de fer qui est à l'œuvre, dont dépendra l'avenir, le visage de ce pays. Et je n'ai pas perdu l'espoir. Vous savez, nous représentons tout de même tout ce que ce pays, toutes les forces vives de ce pays. Nous sommes difficilement,
Effaçable.
difficile, exactement.
Ouais.
Il est difficile de nous vaincre, puisque nous sommes l'économie, nous sommes l'armée, nous sommes les services, nous sommes l'université, nous sommes les hautes technologies, nous sommes tout ça. Et donc, il est extrêmement difficile de gouverner contre toutes les forces vives de son pays. Et là, permettez-moi d'attirer votre attention sur un point sur lequel j'insiste généralement. Là encore, quand
Je
on
vous en prie.
compare avec la Hongrie ou la Pologne ou le Brésil, dans toutes les tentatives illibérales, le pouvoir a réussi à se concilier une partie des élites. C'est comme ça qu'il tient. Notamment une partie de la communauté des affaires, on a bien vu au Brésil. Ici, ils sont à peu près seuls. C'est-à-dire qu'il est impossible de diriger un pays moderne avec des fondamentalistes et des messianiques. C'est une affaire qui ne peut pas fonctionner. Et
D'accord.
donc nous verrons bien. Leur force réside dans le fait que, en fait, ils s'en moquent, si vous voulez. Le fait que des médecins s'en aillent, du high-tech s'enregistre à l'étranger, que le shekel dégringole, tout ça, ça ne les occupe pas. Ce qu'ils veulent, c'est réussir le coup demain. Mais enfin, la messe n'est pas dite, si vous permettez l'expression.
La messe n'est pas dite. Alors, justement, c'est une bonne transition. Élie Barnaby, est-ce que vous pensez que le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, puisse trouver une voie consensuelle pour résoudre cet affrontement politique majeur?
Non seulement je ne crois pas, mais je pense que Tox s'égare. Hein. Ça ne marchera pas pour une raison très simple. C'est que là, il est difficile de trouver un compromis possible. Admettons même que Netanyahou et Levin et tous ceux qui mènent ce coup d'État judiciaire, admettons même qu'ils soient prêts à renoncer à une partie de leur programme. Ce qu'ils obtiendront est déjà suffisant pour porter un coup dur à la démocratie israélienne. Si vous voulez, moi, je comparais naguère cette affaire, cette tentative de compromis, avec quelqu'un qui s'introduit chez vous et il veut violer votre femme. Et vous dites, OK,
C'est une image dure.
D'accord, mais pas de sodomie.
Ouais.
C'est un peu de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, il est difficile d'aboutir à des compromis sur des principes fondamentaux de la démocratie. Ce n'est pas que je sois hostile à toute réforme de la justice. Je veux dire, là, il n'existe pas de situation
Le système
parfaite.
parfait.
Et Dieu sait si la justice a besoin d'être réformée et secouée. Mais on ne fait pas de réforme de ce type sans une. À l'équilibre des pouvoirs, sans un consensus général. Et vous savez qu'en France, aux États-Unis, ou partout, il y a des mécanismes extrêmement longs, compliqués, ardus pour toucher à la Constitution. En France, vous le
Ah oui.
savez, comme moi.
Trois quarts des deux assemblées réunies spécialement à Versailles, c'est
Et
ça,
avant,
oui.
pour que la loi soit acceptée par les deux chambres dans des termes identiques. Et ensuite, on
Absolument.
va à Versailles en congrès ou référendum. On ne touche pas à ça. Aux États-Unis, il faut les trois quarts de chaque chambre pour un amendement. Et à partir de ce moment-là, il faut encore les trois quarts des 50 États. C'est compliqué. Et ici, on prétend, avec une majorité simple, mince, hein, très étroite,
Refaire le système.
on prétend changer les bases mêmes du système, pas un amendement, les bases mêmes du système.
C'est ça
Et
le coup
ça,
d'État.
c'est un coup d'État,
D'accord.
absolument. Vous savez qu'ils appellent ça ici, on appelle ça des lois fondamentales, mais les lois fondamentales sont des lois normales, adoptées à la majorité simple, et que l'on peut changer à la majorité simple. C'est pas ça des lois. C'est pas ça une constitution. Et
D'accord.
donc, il joue sur des mots, et ça, les gens comprennent bien que ce qu'on est en train de le vendre, ce n'est pas une réforme, c'est un coup d'État.
Alors, Elie Barnaby, le temps passe vite. Là, je crois qu'on est arrivé à notre petit quart d'heure. On pourrait encore parler longtemps. Je vous posais une dernière question, et si vous pouvez me répondre très vite. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement peut tomber, qu'une coalition large, droite, gauche, centre, peut se mettre en place, mais même avec peut-être des partis arabes?
Oui, je pense que ce gouvernement peut tomber. Je pense qu'il ne fera pas les 4 ans qui lui sont impartis. Je pense qu'il peut pas tomber à n'importe quel moment. À ce moment-là, on aura de nouvelles. Ils ne garderont pas. Et à ce moment-là, il sera temps de réfléchir à un autre type de coalition. Et je voudrais finir sur un constat ou un souhait, comme vous voudrez. Je ne pense pas que nous reviendrons jamais au statu quo ante. Ça, c'est terminé. Quoi qu'il arrive,
Quelque chose qui est dis il y a quelque chose qui a disparu là.
quelque chose qui a disparu, et c'est peut-être pas pour le pire, c'est peut-être pour le meilleur. Il faudra réfléchir de nouveau à un nouveau départ, puisque ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça a fonctionné, mais c'était extraordinairement fragile,
Et
comme on
ça,
peut le voir.
c'est un moment de vérité, quoi.
Voilà,
Voilà. Eh
absolument.
bien, Elie Barnaby, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et je vous dis à bientôt. Je pense qu'on aura encore l'occasion de vous poser d'autres questions, si vous êtes d'accord, de qu'on vous interviewe. Vous êtes
Je
d'accord pour...
l'espère.
Voilà. Alors,
Absolument.
voilà. À bientôt, Elie Barnaby. Chers
Ah.
auditeurs, je vous souhaite de bonnes fêtes de Rosh Hashanah et on se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. C'était Paul Ouzimi, Arsenal Antenne, avec Chronique pour la paix.